avec Abdulrahman Dia.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Bonsoir et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire L'Amérique et vous sur VOA Afrique et nous allons parler ce soir de la séparation des familles d'immigrés illégaux ici aux États-Unis. Pour vous accompagner au cours de cette émission, Abdulrahman Dia. Alors je rappelle qu'un juge fédéral avait donné jusqu'à hier, 26 juillet, à l'administration Trump pour réunir toutes les familles d'immigrants séparées lors de leur entrée illégale aux États-Unis. Le gouvernement dit avoir remis environ 1800 enfants à leurs enfants, à leurs parents, mais plus de 700 autres n'ont toujours pas retrouvé leur famille. Alors que pensez-vous de cette polémique sur la séparation de familles d'immigrés illégaux? Nous attendons vos appels et pour en parler et pour nous éclairer davantage sur cette question, nous avons deux universitaires en ligne. D'abord, depuis New York, le professeur Suleiman Bachir Diagne de Columbia University et Jean-Germain Gros de l'Université du Missouri depuis Saint-Louis, dans le Missouri. Alors, messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, monsieur Diagne, on va démarrer avec vous. L'administration Trump dit avoir respecté le délai fixé par le juge, mais pour d'autres critiques, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a quand même ces enfants qui attendent toujours d'être réunis avec leurs parents, même si l'administration dit en quelque sorte que ce n'est pas de sa faute.
Oui, bonsoir et merci de l'invitation. Oui, vous avez parfaitement raison. Vous avez d'ailleurs indiqué les chiffres tout à l'heure. Il y a près de 700 enfants qui n'ont pas été réunis avec leur famille. Donc, dire de la part de l'administration que ce n'est pas sa faute, c'est vrai dans la mesure où on voit quelles sont les difficultés. Certains parents, semble-t-il, ont été déportés déjà.
Tout à fait.
Et se trouvent donc hors du pays. On se demande comment on va procéder pour la réunification ultérieure. Mais c'est un problème que l'administration elle-même a créé. C'est ça la difficulté, c'est que c'est la séparation originelle des enfants d'avec leur famille qui n'aurait pas dû avoir lieu. J'allais dire aurait dû être mieux pensée, mais on se demande si on peut avoir une politique qui soit bien pensée et qui consiste à séparer des enfants parfois très très jeunes de leurs parents. Oui. Maintenant, la réunification, évidemment, pose des problèmes techniques extraordinaires. Il y a 700 enfants dont on se demande si on va pouvoir retrouver leurs parents et à quel moment, et qui sont ipso facto transformés en des orphelins dont l'État a la charge, alors que ces enfants n'avaient rien d'orphelin au départ.
Jean-Germain Gros, l'administration dit également que certains de ses parents ont volontairement renoncé à chercher la réunification, peut-être espérant que leurs enfants pourraient avoir une meilleure vie ici. C'est une explication que vous comprenez, que vous acceptez?
Non, je trouve que cette explication est un peu convaincante. Parce que c'est l'administration même qui a décidé de déporter ses parents. Et nous savons que c'est la politique même de l'administration de décourager les gens à venir aux États-Unis. Donc c'est une politique, la faillite, si je peux parler ainsi, de l'administration, est une faillite, disons, programmée. Vraiment, avec tous les atouts que possède le gouvernement américain, c'est difficile de croire qu'on ne peut pas trouver ses parents et qu'on ne peut pas réunir ses enfants avec leurs parents. Non, c'est la politique même de l'administration de décourager l'immigration. Donc, on sépare les gens de leurs enfants. On ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire pour réunir enfants et familles. Et on dit que, bon, ce n'est pas notre faute, mais c'est la faute à qui ?
D'accord.
L'administration qui est en charge, il possède tous les atouts, le FBI, le CIA, le Department of Homeland Security. On peut trouver ces gens. On peut les trouver.
D'accord. Alors, merci beaucoup.
On ne veut pas réunir ces gens avec leurs enfants.
Oui, merci beaucoup Jean-Germain Gros. Alors, Souleymane Bachir Diagne, votre collègue de l'Université de Missouri, Jean-Germain Gros, justement parlait des moyens d'essayer de décourager l'immigration illégale. Le président Trump joue quand même la fermeté, effectivement, depuis quelque temps sur cette question et espère peut-être que la séparation allait être au moins dissuasive. Est-ce que Et ils disent aussi que c'est un peu la loi qui existait avant. Est-ce que c'est une explication que vous acceptez qu'il faut faire obéir la loi?
Il faut quand même faire un partage entre la fermeté, une politique de fermeté, et une politique qui est simplement une politique d'inhumanité. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une obsession telle de l'immigration, un discours tel sur le migrant. Le migrant aujourd'hui est chargé de tous les péchés. Des programmes politiques se construisent sur le simple refus de l'immigration et sur le simple rejet de la figure du migrant. Et malheureusement, cela conduit à ne plus simplement avoir une approche politique et technique de ces questions-là, mais véritablement une approche humaine. Et parce que en la matière, séparer des enfants de leurs parents, et quand on a vu les enfants être en cage, c'était des images insoutenables. On ne peut plus appeler cela simplement de la fermeté. On peut comprendre une politique de fermeté vis-à-vis de l'immigration, une politique qui change. On sait que la population, une majorité de la population va dans ce sens-là, et c'est la majorité qui soutient le président Trump. Mais il faut quand même se rappeler que, par exemple, le Parti républicain, parmi les valeurs fondatrices du Parti républicain, qui est le parti du président Trump, il y avait un certain sens de la famille. On ne peut pas déchirer des familles au nom de la fermeté. À ce moment-là, ça ne s'appelle plus de la fermeté, ça s'appelle de l'inhumanité. Mmh. Et la migration, aujourd'hui, pose vraiment ce problème-là. La question de ce qui est devenu notre sens de l'humain, notre sens d'une humanité commune, notre sens d'une humanité une, il faut cette compassion dont les républicains faisaient l'apologie. Il n'y a pas si longtemps, le président Bush se présentait comme un républicain avec de la compassion. Il faut que cette compassion revienne au devant de la scène et qu'on s'interdise des scènes aussi insoutenables que des enfants retenus dans des cages alors qu'on ne sait pas ce que sont devenus leurs parents.
D'accord. Oui, merci beaucoup, Souleymane Bachir Diagne. Nous allons prendre deux auditeurs. Nous avons Hassan Boulalé depuis Djibouti. Hassan, vous avez une question ou une contribution?
J'ai un petit commentaire et j'ai une question.
D'accord, allez-y.
Moi, d'abord, c'est inadmissible de voir quelque chose qui se passe aux États-Unis avec l'arrivée de Trump. Trump divise les gens et l'espoir qu'on avait des États-Unis. Par exemple, moi, je veux venir aux États-Unis. Je l'ai dit à Trump, juste en ligne, en live. Donc, ce qui est très important, séparer des enfants à leurs parents, des enfants qui plairent et qui sont venus chercher la liberté et l'espoir et la survie, mais aussi des conditions meilleures, c'est inacceptable. La question que je m'aimerais poser, c'est est-ce que demain, ces enfants et ces parents peuvent déposer, porter plainte contre Trump? Est-ce possible et est-ce qu'ils seront indemnisés?
D'accord, merci Omar. Avant d'aller en Angola, nous allons demander à peut-être Jean-Germain Gros et au professeur Diagne de répondre s'ils ont peut-être une réponse à notre ami de Djibouti.
Bon, justement, en principe, en droit international, il y a certaines mesures qu'on pourrait adopter de la mesure où les États-Unis sont signataires de certaines conventions. Mais vous savez, monsieur, que dans les relations internationales, il y a la loi, il y a aussi la force. Je ne crois pas que les parents pauvres de l'Amérique du Sud peuvent assigner M. Trump et lui forcer de prendre des décisions plus favorables. C'est le président des États-Unis et récemment la Cour suprême a déclaré que le président des États-Unis pratiquement allait plein pouvoir en ce qui concerne la sécurité, les questions d'immigration et tout ça.
Oui.
Donc je ne pense pas, si on décide de saisir la Cour pénale internationale, que ça va aboutir, malheureusement.
Oui, merci beaucoup. Alors, Souleymane Bachir Diagne, notre auditeur Omar Boulalé, évoque aussi l'image des États-Unis. En fait, lui-même, il dit que c'est un pays qu'il aimerait bien visiter, ou en tout cas venir ici. Et est-ce que cette politique ne pourrait pas avoir un certain impact sur l'image d'un pays de rêve que les gens aiment bien?
Oui, c'est vrai qu'évidemment, ces images d'enfants séparés de leurs parents ne disent pas beaucoup de bien du pays de leur rêve. Mais il faut quand même voir une chose sur la qui redore l'image des États-Unis, qui correspond davantage à l'image des États-Unis. C'est le fait que justement, c'est le système judiciaire américain qui a réagi à cette mesure. Et là, il faut saluer quand même le système américain. L'institution judiciaire a pris la décision elle-même d'aller à l'encontre de cette politique. Et ça, c'est aussi l'image de l'Amérique. C'est ce que je voudrais dire à notre ami auditeur.
D'accord. Nous avons également Serge Louboya qui nous appelle de l'Angola. Alors, Serge, vous avez une question ou une contribution? On vous écoute.
Oui, une contribution avec une question. La contribution, c'est politique là, c'est une politique qui n'est pas du tout bien. Parce que vu les gens là, comment est-ce qu'ils sont quittés leur pays pour venir aux États-Unis, même si c'est une immigration illégale, mais que peut-être il faut avoir aussi la compassion de savoir la raison pour laquelle les gens là quittent leur pays pour aller s'immigrer aux États-Unis. Maintenant, aujourd'hui, avec manque de compassion, manque d'amour, où on sépare les enfants avec leurs parents, là, c'est laisser encore une fois de plus les cœurs de ces gens-là. Alors, c'est vraiment une très mauvaise question. Alors, maintenant, si les États-Unis font ces choses-là, mais quand dirons-nous des pays africains? Parce qu'il y a aussi des choses qui se passent en Afrique que le monde ne ferme les yeux. Mais maintenant, les pays qui nous démontrent la démocratie, les voies assassives sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Quelles sont les morales qu'ils sont en train de donner aux autres nations vis-à-vis de cette pratique? Donc c'est vraiment très touchant et vraiment on n'arrive pas à comprendre comment être. Le président Trump n'a pas vraiment de la compassion et n'a pas vraiment d'amour avec ces immigrés-là. Donc, nous, il faut chercher à savoir les causes que les gens-là quittent leur pays pour venir aux États-Unis pour venir s'immigrer. Maintenant, la question de savoir quelle est la position de la Commission des droits de l'homme de l'ONU sur cette affaire.
Oui, je ne sais pas si professeur Gros, vous pouvez répondre à cette question. Il me semble que les États-Unis ont décidé de quitter une commission des droits de l'homme, c'est ça?
Oui, les Nations Unies ont récemment dénoncé la politique de l'administration Trump. C'est pratiquement tout le monde qui pense que les actes de cette administration sont vraiment inhumains. Mais, encore une fois, les États-Unis représentent le pays le plus puissant de la planète. Hein? On ne peut pas, justement, contraindre ou bien forcer le président américain à partir de principes international, c'est de changer d'avis ou bien de changer de politique. Donc, les États-Unis, ou les Nations Unies, excusez-moi, peuvent dire ce qu'elles veulent. Et les États-Unis, les Nations Unies sont pratiquement justes dans leur critique de l'administration, mais je crains que ça ne va pas changer le comportement du président Trump et surtout la base, ce qu'on appelle ici la base républicaine, c'est-à-dire les gens qui soutiennent M. Trump. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans 100 jours, il y aura les élections aux États-Unis.
Et les élections de mi-mandat.
C'est là le cible de président Trump. Il veut maintenir le soutien de la base ou bien de ses supporters en novembre 2018.
D'accord. Justement, professeur Diagne, un des principaux sujets de préoccupation selon les derniers sondages pour ces élections de mi-mandat, ce sera l'immigration, par exemple, alors que souvent c'était l'économie ou la sécurité nationale. Est-ce qu'on doit s'inquiéter que l'immigration devienne un sujet aussi important dans le débat national, que cela soit au top du sujet pour les électeurs?
Oui, absolument. Il faut s'en inquiéter parce que, au-delà des États-Unis d'ailleurs, il faut voir que c'est un phénomène mondial. La manière de monter en épingle les migrations et les politiques migratoires pour construire des campagnes et des victoires politiques, malheureusement, nous avons vu que c'est un phénomène répandu. On le trouve en Europe. Il y a un développement dans le monde entier de ce qu'on pourrait appeler un tribalisme, un ethno-nationalisme, un nationalisme de l'identité. Un discours simpliste qui consiste à dire qu'il s'agit de protéger des identités nationales contre l'autre, contre l'étranger, contre le migrant. Alors ce fond de discours est celui que l'on trouve ici, c'est celui que l'on trouve également de l'autre côté de l'Atlantique, c'est celui qui s'est développé malheureusement de manière assez répandue dans bien des pays. C'est la raison pour laquelle il faut continuer quand même à tenir le discours de l'éthique. Il faut que l'on garde la voie éthique du multilatéralisme représenté par le système des Nations Unies. Mon collègue Germain a évidemment raison de dire que le multilatéralisme peut ne pas peser beaucoup sur les décisions d'un grand pays comme les États-Unis, mais il n'empêche que c'est le lieu où se formule la possibilité d'une gouvernance mondiale, la possibilité de faire en sorte qu'il y ait une politique d'humanité, une politique commune d'humanité et de développement commun. Mon collègue l'a dit tout à l'heure, et un auditeur également l'a suggéré, au bout du compte, la vraie solution sera un développement des zones que ces migrants quittent, parce qu'ils ont besoin d'avoir des opportunités, non pas seulement pour eux, mais pour les enfants qu'ils amènent également. Donc, il faut ce développement d'une humanité commune. Et ça, c'est la raison qui fonde la vérité profonde du multilatéralisme, de la gouvernance mondiale. Même si, encore une fois, elle est faible devant la volonté du président de l'État le plus puissant au monde, il faut quand même que cette voix se fasse entendre. Et il est important qu'il y ait une poussée des opinions communes pour le développement du multilatéralisme.
D'accord. Alors, nous allons à Kinshasa retrouver notre auditeur, Alphonse Mbaki. Bonsoir. Alors, Alphonse, c'est une question ou une contribution?
Une petite contribution et une question à la fin. Bon, c'est presque, on a presque dit tout ce qu'il y avait à mettre au profit de cette émission a été déjà dit, mais je peux revenir toujours.
Allez-y rapidement. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Allez-y. Allô?
Ah, mais en tout cas, j'ai mal au cœur en tant que parent. Je ne savais pas que certains parents ont été déportés. En tout cas, vraiment, cela ne reflète pas la politique, les valeurs américaines qui sont inscrites dans la Constitution. Parce que les valeurs américaines sont un fond éteint d'hospitalité et de multiculturalité.
Oui, malheureusement, la ligne se détériore, mais on a compris un peu la contribution d'Alphonse Mbouaki, qui parlait un peu des valeurs et des idéaux des États-Unis. On va aller en Côte d'Ivoire retrouver Steve Boko. Steve, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste.
Oui, une question pour nos invités ou une contribution?
Pour moi, c'est une contribution également. Ben, ce que j'ai à dire comme contribution, je dirais tout simplement que, vu la valeur de l'Amérique, je ne pense très bien que l'Amérique peut essayer de pouvoir utiliser ce comportement un peu cannibale envers les migrants, parce que l'Amérique même, c'est le socle même de l'immigration, parce que l'Amérique aussi est formée de l'immigration, parce que nous avions l'Afrique, l'Amérique noire issue qui est formée de l'immigration. Donc je pense très bien que le président Trump doit essayer de pouvoir valoriser les migrants, parce puisque eux-mêmes ils sont même formés de, les économies même est basée sur l'Afrique. Donc, je pense très bien qu'il doit même valoriser les migrants que de les démystifier comme ça. Sinon, vraiment, cela a venu le nom de ce chef d'État qui essaie de voir un peu la valeur des migrants en vue de pouvoir rehausser un peu son niveau, son économie. Parce que les main-d'œuvre des migrants contribuent aussi à la contribution du pays. Donc, je pense très bien qu'il doit essayer de valoriser un peu les choses que de les radier.
Oui, bon, je comprends votre point de vue. Cette administration dit ne pas se poser en tout cas à l'immigration légale, mais je prends votre point de vue. Alors, Souleymane Bachir Gagne, quand on entend les auditeurs, c'est un peu, ils n'aiment pas trop ce qui se passe un peu à la frontière, mais c'est en même temps un cri de détresse que c'est un peu l'Amérique est toujours un pays qui appelle, qui est toujours séduisant en termes d'immigration, qu'ils aimeraient. C'est peut-être ce qui explique un peu la manière dont ils s'expriment.
Oui, absolument. Et je suis frappé d'ailleurs, et agréablement frappé, par l'appel que nos auditeurs, les deux auditeurs qui se sont exprimés, font aux valeurs fondamentales de l'Amérique. Parce qu'effectivement, il faut se rappeler une chose, la devise de l'Amérique, c'est une devise qui s'est dit en latin, « et pluribus unum », à partir de plusieurs, faire un. Donc un peuple à partir du pluralisme. Il s'agit de se construire dans le pluralisme et il s'agit de s'ouvrir aux autres et aux apports continuels de la migration. C'est ça l'ADN de l'Amérique, c'est ça la valeur fondamentale de l'Amérique. Et donc, quand on s'oppose aujourd'hui à cette politique d'enfermement, de fermeture et de fabrication de boucs émissaires, les migrants sont chargés de tous les péchés, c'est au nom des valeurs américaines elles-mêmes que l'on s'oppose à une politique comme celle-là. Et il est important de le rappeler. Il est important de rappeler que la migration est justement le test d'une société ouverte. Société ouverte et démocratique, c'est une société qui sait accueillir la différence, qui sait se faire hospitalité pour la différence et qui construit son développement à partir de cette hospitalité et à partir de cet accueil de la différence.
D'accord. Justement, Jean-Germain Gros, et peut-être qu'on va se quitter avec vous, si ce débat est passionné et passionnant ici, c'est justement parce que tout le monde n'est pas pour que l'Amérique se referme sur elle-même. C'est justement ça, non?
Non, bien sûr. Le paradoxe, c'est que l'Amérique est un pays d'immigrants. Monsieur Trump lui-même est issu d'une famille d'immigrants. Sa femme, sa mère. En fait, on peut dire que la plupart des Américains blancs sont des immigrants. Nous sommes un pays d'immigrants. Maintenant, on doit maintenir une certaine contrôle des frontières. Il ne faut pas encourager l'immigration illégale. Mais maintenant, je crois que cette administration est allée trop loin.
D'accord.
On a aussi pratiqué une politique migratoire humanitaire.
Voilà. Merci
et
beaucoup.
Non, une politique migratoire basée sur la discrimination.
D'accord.
C'est là le problème.
Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, professeur Jean-Germain Gros de l'Université de Missouri et Souleymane Bachir Gagne de Columbia University. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci à tous les auditeurs qui ont appelé. Excellente écoute en compagnie des programmes de VOA Afrique. Dans quelques secondes, un nouveau point sur l'actualité avec Raïssa Girondin. Au revoir.